bonjour à tous nos auditeurs.
Le 10 juillet 1970, sur France Culture, l'écrivain Roger Bordier offre aux auditeurs un conseil de lecture pour l'été.
Alors, je viens de lire « La vieillesse » de Simone de Beauvoir, qui est un ouvrage pour lequel j'ai une admiration très grande. Et il me semble qu'il n'a pas paru depuis très longtemps en France un livre de cette importance sur un sujet proprement humain et proprement social à la fois.
« La vieillesse », titre d'un essai signé Simone de Beauvoir. Un livre assez méconnu aujourd'hui, en tout cas, disons, bien moins célèbre que « Le deuxième sexe », et pourtant presque aussi essentiel. Un livre sur le dernier âge de la vie, à travers lequel Beauvoir se confronte à sa propre décrépitude.
J'ai envie que les gens me connaissent, parce que parmi les gens qui me lisent en particulier, il y en a beaucoup qui se trompent tout à fait sur mon compte, et parmi les gens qui ne m'ont pas lu mais qui ont entendu parler de moi, il y en a également beaucoup qui se trompent sur mon compte.
Quand ce livre sort en librairie, le 23 janvier 1970, Simone de Beauvoir vient de fêter ses 62 ans. La vieillesse, ce pays que personne ne veut voir, elle le visite avec une grande lucidité. Que devient-on quand on est vieux? Avec ce souci d'exactitude qui la caractérise, elle ne se ménage pas. Ni elle, ni Jean-Paul Sartre d'ailleurs. L'un et l'autre vieillissent, ils dépérissent, ils se rapprochent de la mort et elle cherche à savoir ce que cela veut dire. Et c'est ce que vous allez découvrir dans cet avant-dernier épisode.
Je n'ai jamais pensé que j'avais raté ma vie, je suis extrêmement contente de ma vie puisque j'ai réussi à peu près tous mes rêves.
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Simone de Beauvoir, un voyage en bourgeoisie. Septième épisode... La cérémonie des adieux.
Je m'efface donc maintenant pour donner la parole à Simone de Beauvoir.
J'ai commencé à vouloir vraiment écrire vers 15 ans. Je voulais écrire pour retenir quelque chose de la vie. Mais c'était primordial chez moi, vivre.
Mais pourtant, vous avez eu une éducation très bourgeoise.
C'est pas une raison pour aimer la bourgeoisie. Je souhaite que les femmes deviennent des êtres humains qui soient absolument autonomes et responsables d'eux-mêmes comme les hommes.
Comme le Capital de Marx sert de référence idéologique aux communistes, les féministes du monde entier, aujourd'hui, se réfèrent au deuxième sexe.
L'histoire débute le 14 février 1970. Nous sommes à la maison de la radio et on enregistre une émission d'un programme déjà culte.
Nous sommes au Théâtre 104, maison de l'ORTF à Paris, où François-Régis Bastide et Michel Polac vous présentent leur magazine public, Le Masque et la Plume, qui est consacré aujourd'hui à la littérature, avec le concours de Nicole Gandré-Réty pour la réalisation et de Pierre Janssen au piano et au clavecin.
Et ce soir-là, au menu du Masque et la Plume, on s'écharpe sur la vieillesse, le nouveau livre de Simone de Beauvoir.
Mais bien sûr, quand on referme le livre... on n'est pas tout à fait convaincu de sa thèse. Oui. On voudrait bien penser que la vieillesse n'est qu'un problème social, mais malheureusement, je n'ai pas l'impression que ce soit très justifié.
Monsieur ?
Il me semble que vous passez complètement à côté du bouquin, comme d'habitude, ça ne m'étonne pas.
Oui. Voilà, ça, j'aime beaucoup ce ton-là. Oui.
Elle dit bien qu'elle ne prétend pas du tout étudier sa vieillesse, c'est un essai sur la vieillesse. Et pourquoi elle l'a fait, cet essai ? C'est cela que vous avez complètement oublié de rappeler. Elle l'a fait parce qu'elle est scandalisée, absolument monstrueusement scandalisée, de ce que la société contemporaine, qu'elle soit française ou européenne ou mondiale, fait de la vieillesse, laisse à la vieillesse, accorde à la vieillesse. Et ça, elle proteste avec une vigueur acharnée pendant 600 pages, et ne serait-ce que pour ce point-là, vous auriez dû lui rendre hommage.
Le livre se présente en deux parties, sur le modèle du deuxième sexe, avec quelle idée motrice ?
En gros, l'idée de Beauvoir, c'est de dire, bon, mais parce qu'elle est si angoissée par sa propre vieillesse, de réfléchir à qu'est-ce que c'est que les vieux, quoi.
La philosophe Manon Garcia.
Et en fait, déjà dans le deuxième sexe, il y avait quelques analyses sur la vieillesse très intéressantes, et notamment une que je trouve vraiment très frappante, à laquelle je repense très souvent, où elle dit que les femmes vieilles sont comme un troisième sexe. au sens où elles n'apparaissent plus comme des femmes dans les yeux de la société, et que leur corps n'est plus exactement un corps de femme et leur coûte de manière différente, mais les met dans une autre situation que la situation d'être une femme dans la société, et à quelque chose d'extrêmement libérateur. Et je pense que c'est ça qui l'intéressait dans la vieillesse, c'était de travailler ce contraste entre le caractère libérateur d'être, on pourrait dire avec un anachronisme, d'être sortie du marché de la bonne meuf, pour prendre l'expression de Virginie Despentes. Donc une fois qu'on est vieille, on est sortie du marché de la bonne meuf, donc on est libérée de plein de choses. Et en même temps, de tout cet âge où on va vers la mort et où du coup, on peut plus se projeter en se disant « qu'est-ce que ma vie va me réserver ?»« Voilà, je pourrais décider de faire ça, je pourrais décider de faire ça. » Et donc la façon dont la temporalité s'inverse, en fait, où on réfléchit plus à un infini devant nous, mais à un moment très limité devant nous, comment ça va façonner aussi la façon dont on perçoit les choses. Et l'organisation du livre est identique à l'organisation du deuxième sexe, et c'est très fort, parce qu'elle montre comment les vieux sont vus par les non-vieux, donc comment la catégorie des vieux est construite par la société, comme comment ils sont inutiles, voilà, comment en fait on parle très peu de la vieillesse, qu'on veut tout le temps fermer les yeux là-dessus. C'est très fort ce qu'elle dit, hein, quand elle dit « En fait, c'est encore plus que la mort, quelque chose que personne ne veut voir. Que c'est vraiment dégoûtant, qu'on a envie de faire comme si ça n'allait pas nous arriver. » Et elle dit « C'est quasiment sûr que ça va nous arriver. » Et pourtant, c'est la période à laquelle on pense le moins, quoi, dans laquelle on se projette le moins. On y pense beaucoup moins qu'à la mort. C'est comme si c'était encore plus effrayant.
Extrait de La vieillesse, 1970.
La vieillesse est particulièrement difficile à assumer parce que nous l'avions toujours considérée comme une espèce étrangère. Que le déroulement du temps universel ait abouti à une métamorphose personnelle, voilà ce qui nous déconcerte. Déjà, à 40 ans, je suis restée incrédule quand, plantée devant un miroir, je me suis dit « j'ai 40 ans ».
La vieillesse, ça vient tout doucement ?
Sans qu'on s'en aperçoive, c'est sournois.
La danseuse Mado Minty, 1974.
C'est une saleté, la vieillesse, c'est affreux. C'est pas drôle de se voir devenir laid, de se voir devenir impotent, de se voir devenir aveugle et tout ça. Et il faut lutter jusqu'à la mort.
Simone de Beauvoir, 1970.
On peut se rendre compte que ce sont nos sociétés industrielles d'aujourd'hui qui sont peut-être les plus féroces pour les vieillards. Dans les sociétés rurales, dans les villages, les vieillards n'ont pas toujours une vie très rose, mais enfin, ils sont quand même plus entourés, ils continuent à faire un peu de travail, et il y a plus de rites et de respect qui les entourent que dans les villes. C'est dans les villes qu'il y a vraiment une solitude telle que une enquête faite dans je ne sais quel arrondissement, mais c'est valable certainement pour toute la France, montrait qu'il y avait un tiers des vieillards qu'on avait examinés qui ne recevaient pas une lettre depuis des années, qui n'en recevront plus jamais, et qui ne reçoivent ni une visite ni rien, qui sont totalement seuls.
Vous sentez-vous oublié ?
Oui, mais ça m'est égal. Je suis blindée. La vie m'a appris tout ça. Naturellement que je la sens, la solitude, elle me pèse parfois. Mais je biaise avec elle. Si je me sens seule, si je suis dans un jour où je suis un peu comme ça, je me dis, ben zut, tant pis, je sors.
Ce livre a un peu disparu de notre mémoire collective. Et pourtant, Beauvoir y pointe des enjeux qui nous concernent tous. Dans une première partie du livre, elle réfléchit à la dimension politique de la vieillesse. Autrement dit, quel rapport avons-nous avec nos anciens ? Et quelle place accordons-nous aux vieux dans nos sociétés ? Et puis, il y a un deuxième volet à son essai.
Dans une deuxième partie, elle fait vraiment une analyse, donc qu'on peut appeler phénoménologique, donc une description du phénomène que c'est que de vivre en étant vieux.
Manon Garcia.
Et c'est fascinant, quoi, sur voilà comment la temporalité s'inverse, comment on peut plus faire de projets, qu'est-ce que c'est qu'avoir un corps fatigué. Et évidemment, vous dites c'est un livre dont on parle pas beaucoup, etc. Mais d'une certaine manière, c'est ce qu'elle décrit dans son livre, qu'on n'en parle pas parce qu'on n'a pas envie de le voir, que c'est insupportable, en fait.
Ce qui est fascinant, Manon Garcia, c'est que ce livre, il a 55 ans, presque 55 ans, et il est d'une modernité incroyable. C'est-à-dire que ce livre, La vieillesse, parle de notre rapport aux vieux aujourd'hui encore en 2023.
Ah oui, c'est vraiment c'est fascinant. Le portrait général est effectivement d'une modernité dingue. Et je pense que nous qui sommes dans cette situation très paradoxale, étonnante, inquiétante de se dire bah, tous les baby-boomers vont commencer à être vieux, ça va être vraiment... Enfin, tout d'un coup, la vieillesse va devenir l'âge majoritaire de la population. Il faudrait que tout le monde lise ce livre, en fait. Parce que c'est un livre aussi important pour les vieux eux-mêmes, pour comprendre ce qu'ils traversent, que pour tous les gens qui connaissent des vieux, pour comprendre ce que les gens avec qui ils vivent traversent. Donc oui, je recommande chaudement la lecture de La vieillesse et de pas se laisser intimider. Vous pouvez sauter des pages dans la première partie sur les parties sociologiques qui vous intéressent pas, mais c'est quand même vraiment un livre merveilleux.
Par ailleurs, Beauvoir réfléchit aux conséquences de la vieillesse sur la vivacité de l'esprit et sur la création artistique. Peut-on continuer à écrire et à penser le monde quand on est vieux ? C'est une angoisse qui l'étreint, et devant sa propre vieillesse, vieillesse du corps et de l'esprit, elle prend conscience de sa fragilité.
Sa fragilité, c'est quand elle prend conscience de quelque chose qui, venant de l'extérieur, l'oblige à changer.
Danielle Salnave, académicienne.
Et la vieillesse, c'est le choc forcément éminent, le choc par excellence, puisque c'est quelque chose qui vous est imposé de l'extérieur, pas seulement par le corps, mais aussi par la société. Si c'était uniquement la vieillesse du corps, elle le sait depuis très longtemps. Quand elle a 18 ans, elle pense déjà tout est fini. Et quand on a la 50, c'est encore pire, évidemment.
J'ai 52 ans, c'est comme si j'étais déjà une vieille femme.
C'est à cause de toute cette jeunesse. Moi aussi, ici, je me sens plus âgé.
Non, Sartre, un homme, une femme, ça n'est pas la même chose. Nous ne sommes pas égaux devant l'âge.
Peut-être. Mais vous en connaissez beaucoup d'autres qui, comme nous, peuvent absolument compter l'un sur l'autre. Vous et moi, c'est solide. Ça nous protège.
Mais c'est aussi parce que la société telle qu'elle est, le monde dans lequel elle vit, la France telle qu'elle est, accorde une place misérable aux vieux. Et elle a le sentiment que de cela, comment peut-on le reprendre, puisque c'est sa fameuse formule, le reprendre dans la liberté ? Comment peut-on reprendre dans la liberté un corps qui ne répond plus comme il répondait quand elle galopait en espadrille à travers les broussailles dans les calanques ? Et quand le pouvoir de séduction, l'attirance sexuelle, tout cela a subi des revers inévitables ? Et quand elle se regarde dans le miroir, elle voit quelqu'un qui lui est étranger. Tout ça, déjà, est très difficile à reprendre dans les libertés. Mais la situation sociale aussi, des vieux, qui imposerait des solutions politiques, économiques, sociales, là, sur ce plan-là, elle retrouve de la combativité. Parce que autant la première forme de la vieillesse, c'est-à-dire la vieillesse du corps, de cela, c'est un destin, ce qui n'est pas tout à fait vrai non plus, mais elle le vit comme tel. C'est pas tout à fait vrai, puisqu'il y a un très grand arbitraire et de très grandes différences entre les personnes âgées. Mais la question sociale et politique, c'est de nouveau là quelque chose, comme c'était le cas pour le féminisme ou pour la guerre d'Algérie, c'est là qu'on va pouvoir trouver des solutions qui seraient des solutions concrètes dans lesquelles, en effet, la liberté pourrait s'incarner, socialement, politiquement. Et elle n'a pas tort. Comme on peut le voir plus que jamais 60 ans plus tard.
Ce livre est en effet d'une cruelle actualité.
Cruelle actualité.
Et dans cet essai, Beauvoir inculpe la société. À ses yeux, la société est responsable du triste sort réservé aux vieux.
Elle est responsable de deux manières. Non seulement par la manière dont elle traite les vieillards, en leur donnant des retraites, des pensions absolument dérisoires, en ne faisant aucun effort pour les loger mieux qu'ils ne sont logés. Beaucoup vivent dans des combles, ils ont des 6 étages à monter, etc.
Magazine Aujourd'hui Madame, 1972.
Madame Fontbonne, vous habitez un 5e étage. Quel âge avez-vous ?
81 ans.
Et vous descendez souvent ?
Ouais, plusieurs fois par jour, suivant les besoins que j'ai à descendre.
Je vois que vous avez un poêle à charbon. Où est votre charbon ?
Mon charbon se trouve à la cave.
Et alors, c'est vous qui le montez ?
Alors, je monte mon charbon. Mais je n'emplis pas mon seau. Comme ça, c'est plus facile à monter.
Tout cela, la société est responsable, mais elle est responsable aussi d'avoir pendant toute leur vie préfabriqué ces vieillesses, c'est-à-dire qu'elle use les hommes. Elle use les hommes d'une telle manière, par le genre de travail qu'elle leur inflige, par les cadences, par les rythmes du travail qui sont absolument usants, qu'un homme de 60 ans, qui, s'il a une vie de privilégié, peut-être encore un homme dans la force de l'âge, quand c'est un ouvrier parisien, par exemple, on avait des enquêtes là-dessus, c'est vraiment un homme complètement usé et qui va alors retomber de plus en plus de maladie en infirmité, d'infirmité en maladie, etc., etc. Alors elle est doublement responsable pour ce qu'elle fait des hommes avant qu'ils ne soient vieux et qui les amènent à la vieillesse dans un état déjà de délabrement, et pour ce qu'elle fait ensuite de ces hommes, une fois qu'ils sont devenus vieux, elle les abandonne presque complètement. La manière dont elle les aide est absolument misérable. Et à mon avis, la condition des vieillards, c'est vraiment un échec total de la société basée sur le profit tel qu'elle est aujourd'hui. Parce que dès qu'un individu ne rapporte plus par son travail et qu'il ne produit plus, eh bien, comme disait l'un d'eux, cyniquement, il est tout juste bon à faire un macabée.
Beauvoir vieillit, et Sartre aussi. Son corps est en train de le lâcher. Il subit les assauts de la décrépitude. Et dans une interview assez étonnante, Sartre s'est confié à l'écrivain Michel Conta. Nous sommes en juillet 1975, le philosophe a 70 ans.
Il est difficile de dire que ça va bien, mais je ne puis pas dire non plus que ça aille mal. J'ai des troubles de tension assez considérables, mais qui brusquement, ces derniers temps, se sont supprimés, avec bien sûr des remèdes. Et j'ai eu des hémorragies derrière mon œil gauche, c'est-à-dire le seul œil de mes deux yeux qui voit. Et alors qu'il est, je vois encore les formes, vaguement. Je vois les lumières, je vois les couleurs, mais je ne vois plus en général les objets distinctement. En particulier, les visages sont complètement invisibles ou simplement vaguement. Et je ne peux naturellement plus ni lire, ni écrire. C'est-à-dire que je peux écrire, former les mots avec ma main, et je le fais actuellement à peu près convenablement. Mais je ne peux pas lire ce que j'écris. Donc, toute activité d'écrivain m'est actuellement interdite. Et quant à lire, je ne peux absolument plus. Mon métier d'écrivain est complètement détruit. Cependant, je peux encore parler.
Il est affaibli, diminué, et Simone de Beauvoir en parlera très bien dans La cérémonie des adieux, qui est un très beau livre qu'elle a écrit après la mort de Sartre, où elle parle avec une certaine cruauté, parfois, des désordres de son corps. Un jour, il est en Italie, il a une tache sur son pantalon, et il dit « Oh, c'est un chat qui a pissé sur moi !» Elle dit « Sartre, non, vous êtes incontinent !» Et c'est terrible, parce qu'elle pense que non, il faut dire la vérité dans toutes les situations. Je fais partie de ceux ou celles, plutôt, plus faibles certainement, qui seraient tentés de faire apparaître une armée entière de chats pour couvrir ce qui est évidemment un gros mensonge de vieil homme malade. Mais je ne suis pas sûr que j'ai raison. Donc, elle va vivre cela, elle va le vivre. Leurs rapports vont être médiés par diverses circonstances. D'abord, depuis les années, milieu des années 60 et jusqu'à sa mort, elle aura la chance d'être accompagnée par celle qui, en 1981, deviendra sa fille adoptive, que je connais très bien, j'ai fait mes études avec elle, nous étions à Normal Sup ensemble.
Sylvie Lebon de Beauvoir.
Sylvie Lebon de Beauvoir. Et ce qui représente pour Simone de Beauvoir, elle en parle très bien à sa façon. Dans ses mémoires, elle en parle très bien. Et il y a une comparaison qui est assez touchante, parce qu'elle compare cette relation qu'elle a nouée avec sa fille adoptive à celle du vieux Clémenceau et de la femme beaucoup plus jeune dont il était pris. Et Clémenceau disait « Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir ». Et c'est aussi ce qui s'est passé dans cette relation. Et pendant ce temps-là, Sartre, lui-même, ayant été épris d'une jeune femme qu'il n'épousera pas, dont qui fera sa fille adoptive, qu'il aurait pu épouser probablement, mais va se trouver pris dans une vie, peut-être une vie parallèle à celle de Simone de Beauvoir. Alors que pendant toutes les années précédentes, ils ont conçu un équilibre, des repas strictement réguliers, le dimanche à la Coupole, je ne sais quel autre soir ailleurs, on écoute des disques, si c'est Simone de Beauvoir, un autre soir, tout ça était très réglé, tout ça va plus ou moins éclater.
En 1975, Beauvoir et Sartre arrivent au crépuscule de leur vie. Et en effet, leur histoire va mal finir. Reprenons les faits. Entre Beauvoir et Sartre existe une vieille complicité, une amitié amoureuse née à la toute fin des années 1920.
Celui qui n'est pas célèbre à 28 ans doit pour toujours renoncer à la gloire.
Cette phrase n'est même pas de vous, elle est de Rodolphe Topfer.
Oh, vous m'épatez. Il paraît que vous n'avez que 21 ans. Vous êtes bigrement en avance.
Et vous, vous êtes redoublant.
Les profs étaient trop cons pour m'apprécier à ma juste valeur. Mais j'ai déjà 24 ans.
Il ne vous reste que 4 ans pour devenir célèbre. Vous feriez mieux de ne pas perdre votre temps.
J'écris. Vous aussi, vous écrivez, n'est-ce pas?
Simone de Beauvoir, dans Mémoire d'une jeune fille rangée, 1958. Sartre répondait exactement aux vœux de mes 15 ans. Il était le double en qui je retrouvais, porté à l'incandescence, toutes mes manies. Avec lui, je pourrais toujours tout partager. Je savais que plus jamais il ne sortirait de ma vie.
Jean-Paul Sartre sur Simone de Beauvoir, dans le magazine Vogue, 1965. Non seulement elle est la personne qui me connaît le mieux, mais je pense que tout ce qu'elle dit sur l'importance réciproque de nos rapports est tout à fait exact. Voilà maintenant, en effet, près de 30 ans que jamais, comme elle le dit, nous ne nous sommes endormis un soir désunis.
Je les envie.
Manon Garcia.
Je dois dire que je me dis, oh là là, ça doit quand même être un vrai truc de passer toute sa vie avec quelqu'un et vraiment de se parler tous les jours, toute sa vie. Parce que c'est ça la réalité, c'est que je suis assez d'accord avec la biographe de Beauvoir Kirkpatrick et qui dit qu'en gros, c'est plutôt de l'amitié leur truc, puisqu'ils arrêtent de coucher ensemble au bout de 2 ans. Mais c'est une amitié comme il n'en existe pas. C'est vraiment l'amitié de toute une vie. C'est une, ils vivent ensemble, enfin sans jamais partager le même appartement, mais ils traversent toute leur vie l'un avec l'autre. Donc ça, je trouve ça très... très impressionnant. Après, je pense qu'on s'est quand même un peu trompé sur leur couple à plusieurs égards. C'est-à-dire, je pense qu'à la fois leurs grands critiques et à la fois leurs grands admirateurs se sont trompés. Ils se sont pas toujours très bien comportés avec les autres gens. Je pense qu'ils se sont assez bien comportés l'un avec l'autre, mais qu'ils ont étonnamment traité un peu les autres gens comme des objets, que c'est un peu regrettable quand on connaît leur engagement moral, politique, philosophique. C'est étonnant qu'ils aient été aussi incapables de voir comme ils traitaient mal certaines personnes. Mais je pense aussi que il y a plein de choses qui sont des mauvais procès sur tout le truc qui consiste à dire « Ah oui, Beauvoir, en fait, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle séduisait des femmes pour les mettre dans le lit de Sartre ». Je pense que c'est pas du tout ça qui s'est passé entre eux. Je pense que la vérité, c'est que ils ont eu des relations concomitantes avec les mêmes personnes, qu'ils aimaient bien le format du trio amoureux, mais que je pense que c'est extrêmement sexiste que de croire que Beauvoir elle couchait avec des filles pour les mettre dans le lit de Sartre. Je pense que c'est pas ça qui se passait. Je pense que Beauvoir elle aimait bien coucher avec des filles, qu'elle était pas très à l'aise avec le fait qu'elle aimait bien ça, mais qu'elle aimait bien ça, et que par ailleurs, Sartre, qui était un très grand séducteur, était intrigué dès que Beauvoir avait une relation avec une autre jeune femme, et que comme lui avait une relation très forte avec Beauvoir, c'est un classique, le triangle amoureux, quoi.
Bonjour, madame.
Bonjour. Je suis contente que vous soyez venue. Asseyez-vous. Bon, finalement, avec Frédéric, vous en êtes où?
Je crois qu'elle n'est pas mûre pour le pacte.
Qu'est-ce que vous entendez par le pacte?
Comme vous avec Sartre. La liberté de votre couple, tout se dire.
Mais, Carla, ce pacte vaut pour Sartre et moi parce que nous avons les mêmes objectifs dans la vie. Et que chacun aide l'autre. Nos livres passent avant tout le reste. D'ailleurs, nous avons fait pas mal de dégâts chez des gens qui croyaient pouvoir nous imiter. N'oubliez pas, le pacte, c'est une morale d'écrivain.
C'est un type de couple,
le philosophe François Noodleman,
qu'ils ont incarné, qui donne encore des leçons aujourd'hui pour penser ce que c'est que l'indépendance de l'un et de l'autre dans un couple.
Dans ce type de couple, il y a forcément ce célèbre pacte passé entre deux. Oui. On a souvent dit, François Noodleman, que c'est lui qui l'avait imposé à Simone de Beauvoir, qu'elle l'avait subi, finalement qu'elle n'avait pas vraiment choisi. Or, il faut revoir un peu cette lecture parce que, en vérité, elle en a aussi beaucoup joui, elle. C'est important de le dire.
Très important. Je ne sais pas trop pourquoi, d'ailleurs, on met comme ça la pression sur Sartre pour dire qu'il a imposé, que c'est très masculin, etc. Ce pacte, eh bien, il a été assumé par tous les deux. N'oublions pas aussi que Beauvoir a aussi des amours très libres, des amours avec des femmes, même si c'est une espèce de point un peu tabou parce qu'elle ne parle pas de son bisexualisme. Mais bon, le lesbianisme de Beauvoir, bon, il est avéré. Et donc, c'est dans cette grande liberté que, dès les années 30 et les années 40, ça lui a quand même aussi coûté cher parce qu'elle a été radiée de l'instruction publique à cause d'une de ses affaires, d'une relation avec une étudiante. Bon, tout ça a été connu par Sartre et Beauvoir. Et c'est ce qui me paraît intéressant, c'est le pacte de transparence. C'est-à-dire que ça n'était pas fait derrière le dos de l'un, de l'une, de l'autre. Ce refus du modèle bourgeois, de l'hypocrisie bourgeoise, est quand même quelque chose d'intéressant, même si aujourd'hui, on sent une forme de moralisme qui condamne cette forme de couple. Bon, ce qui peut effectivement porter un petit peu à critique, c'est lorsque ce couple-là joue avec une tierce personne. Bon, c'est notamment l'affaire de Bianca Lamblin qui a été un peu l'objet de discussions dans cette espèce de libertinage.
Bianca Lamblin fut d'abord l'élève, puis l'amante de Simone de Beauvoir, avant de former un ménage à trois avec Sartre à la fin des années 30. Une jeune femme qui fut manipulée par le couple.
Au fond, le refus de la fidélité sexuelle, le refus du mensonge, le refus du couple bourgeois, c'est quelque chose, je crois, qui n'est pas forcément à condamner. C'est une possibilité. Et comme vous le signalez, je crois que Beauvoir, qui a eu des très très grandes passions, tout en gardant Sartre, permettez-moi juste de dire que lorsqu'elle rencontre Nelson Algren, qui a été peut-être la plus grande passion de sa vie, cet écrivain américain, et que cet écrivain américain lui dit qu'il aimerait bien qu'elle vienne vivre avec lui dans l'Illinois, même si elle est follement amoureuse de lui, elle lui dit « il y a quelqu'un qui sera toujours là dans ma vie, c'est Sartre hein ». Donc, vous voyez, cette part de vérité, elle est assez belle et elle n'empêche pas les jalousies, parce qu'on croit toujours que ce pacte les a amenés à être des amants très très froids, qui gèrent leur vie, comme ça. Non, il y avait des jalousies entre deux, parce que Sartre avait ses relations, elle avait ses relations, mais il y a eu jusqu'au bout cette fidélité absolument remarquable, intellectuelle et aussi sentimentale.
Simone de Beauvoir, dans Mémoire d'une jeune fille rangée, 1958. L'esprit de Sartre était toujours en alerte. Il ignorait les torpeurs, les somnolences, les fuites, les esquives, les trêves, la prudence, le respect. Il s'intéressait à tout et ne prenait jamais rien pour accorder.
Jean-Paul Sartre sur Simone de Beauvoir, dans le magazine Vogue, 1965. C'est très difficile de dire ce que l'on doit à une personne. D'une certaine manière, si vous voulez, je lui dois tout. D'une autre façon, j'aurais évidemment écrit si elle n'avait pas existé, puisque je le voulais. Mais qu'est-ce qui fait que la totale confiance que j'avais en elle m'a toujours donné une totale sécurité ?
En 2023, quel regard vous portez sur ce couple iconique du XXe siècle ?
Je crois que c'est un couple passionnant, c'est peut-être le couple le plus passionnant du XXe siècle, parce qu'ils ont traversé les grands moments philosophiques, littéraires, politiques, historiques donc, du XXe siècle. Je pense qu'on peut étudier, comprendre le XXe siècle à travers eux, à travers aussi leur fourvoiement, à travers leurs illusions, qui ne sont pas celles simplement des individus qu'ils étaient, mais qui ont été celles de la grande majorité des intellectuels, très très massivement. Donc on peut voir ce que ça a été qu'être un intellectuel dans les années 30, puis au moment de la guerre, puis au moment de la décolonisation, au moment des mouvements féministes. Donc tout passe par eux. D'ailleurs, même leurs adversaires ont dit... Tout est passé par eux. Que ça soit le cinéma, que ça soit le roman américain, que ce soit la phénoménologie, le marxisme, tout est passé par eux. Ils ont une manière, tous les deux, d'absorber. C'est à la fois des éponges, mais en même temps, ils les retravaillent, ils retravaillent tout ça à leur manière. Ils ont effectivement essayé d'imprimer une touche, qu'on va dire, existentialiste à tout ce qui a été vécu, mais ils ont digéré leur époque. Donc, ça reste passionnant d'étudier leurs œuvres et leurs pensées à travers ça. Donc, je crois que voilà, Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre restent chacun... Et ensemble, des phares pour comprendre le XXe siècle.
Il me paraissait bien optimiste, Sartre.
Et je vous le dis, Khrouchtchev, si bureaucratique qu'il soit, ouvre une brèche dans le mur. La coexistence pacifique, c'est le début de la démocratisation. Ça, j'y crois dur comme fer. Ah, et puis, je vais vous dire, Castor, je ne suis pas optimiste, je suis gay.
Et parfois, nos raisons d'être gay sont seulement privées, Castor.
Allez, buvons leur santé.
Zazdarovia.
Comment est-ce que vous expliquez que, alors qu'ils sont des êtres de joie, des êtres de plaisir, des êtres réjouis, ils véhiculent encore une image d'austérité, une image presque dont on se moque encore aujourd'hui beaucoup? Comment est-ce que l'un avec l'autre et l'un sans l'autre ont été victimes finalement aujourd'hui encore de cette caricature qui leur colle à la peau?
Il me semble que ça tient beaucoup à la politique, au militantisme, parce que, oui, et la langue de bois a été aussi parfois leur langage. Donc, cette volonté, surtout à la fin, de tout ramener à la politique, cette espèce d'idéologie du tout politique, même si il ne se résume pas à cela, ça reste un petit peu voilà, l'image qu'on a... On les voit aussi en photo, ils sont tous les deux en train d'écrire. De fait, on a l'impression qu'ils passent leur vie sur leur table de travail. Mais, encore une fois, il y a un nombre de documents extraordinaires qui témoignent d'une vie libre, légère, joyeuse, comme vous le rappelez. Donc, c'est à redécouvrir.
Je suis le premier victime de ce que je vous ai dit parce que, en prenant ce dossier, j'avais l'image en effet d'une vie de travail, d'une vie assez austère, au service d'une idée, d'un combat, donc avec une forme de respect de ma part. Mais j'ai découvert des gens qui voyagent sans cesse, des gens dont le plaisir est au cœur de la vie, il faut le redire, parce que, en effet, quand on regarde leur vie avec une loupe, on s'aperçoit que c'est des gens extrêmement joyeux, en vérité.
Oui. On n'a qu'à opposer à cette image-là, Simone de Beauvoir faisant de l'escalade dans les Pyrénées ou faisant du ski, ou bien Sartre faisant le pitre en chantant Fausse de Gounod. Alors bon, ces deux images peut-être donneront à voir ce couple autrement que comme celui de deux militants enragés.
Beauvoir et Sartre, un couple joyeux, profondément uni et lié par un pacte d'écrivain, où l'accomplissement de l'œuvre compte plus que tout. Même âgés, ils continuent de voyager et poursuivent leurs séjours réguliers en Italie ou en Grèce. Mais le 16 mars 1976, Sartre est hospitalisé. Son état de santé s'est dégradé.
Son état est très sérieux. Il faut impérativement qu'il change de régime et pour commencer, qu'il interrompe tout travail. Quand je le dis impérativement, c'est impérativement.
Beauvoir apprend qu'il n'a plus que quelques années à vivre. Et elle écrit alors que son angoisse diffuse a cédé la place à un radical désespoir. La vieillesse va avoir raison de leur complicité. Dans l'entourage de Sartre, deux personnes prennent de l'envergure. Sa fille adoptive, Arlette El-Kaïm, et son secrétaire, Benny Lévy. Un duo qui éloigne Sartre de Beauvoir.
Ce qu'en pense Sartre, je ne le sais pas. Ce qu'elle en pense, elle, c'est qu'elle en souffre.
Daniel Salnave.
Il est évident qu'elle en souffre, et elle a le sentiment petit à petit qu'il est capté par ses filles adoptives, Arlette et El Kaïm, et aussi par Benny Lévy, qui vont petit à petit l'attirer dans leur orbe, ce qui nous mènera à ces entretiens qu'il donne et à toute l'affaire assez pénible, au fond, qui se déroule autour de cela.
Quelle est donc cette pénible affaire ? En mars 1980, le Nouvel Observateur publie des entretiens entre Sartre et Benny Lévy. Des entretiens qui font grand bruit. Alors d'abord, qui est réellement ce Benny Lévy ?
Oui, Benny Lévy est un activiste, un militant de la gauche prolétarienne qui, après 1972 et la dissolution de ce mouvement maoïste, est devenu le secrétaire, mais plus qu'un secrétaire, un interlocuteur philosophique de Sartre et qui a amené Sartre aussi à dialoguer avec le judaïsme. Et ça n'a pas été du goût de la, comment on dit, de la petite famille sartrienne, notamment de Simone de Beauvoir, et les derniers textes publiés par Sartre, qui sont des dialogues avec Benny Lévy, ont provoqué la fureur de cette petite famille, dont Simone de Beauvoir. C'est la seule fois dans la vie de Sartre où il y a eu un différend sur la publication de ces textes.
Dans ses entretiens, Sartre parle du judaïsme. Et Beauvoir lui reproche de s'intéresser à des commentaires bibliques. Ce soudain intérêt pour le religieux s'explique par le trajet de Benny Lévy, qui passe de Mao à Moïse, donc de la gauche prolétarienne au judaïsme. En réalité, ces entretiens sont plutôt des conversations philosophiques. Mais sachez que ce sont les seuls textes que Sartre a publiés, malgré le désaccord de Beauvoir. C'est une forme de rupture entre deux. Et la petite famille, ce cercle composé d'intimes, liés par des affinités intellectuelles et amoureuses autour du couple Beauvoir et Sartre, eh bien, cette petite famille, donc, estime à l'époque que Benny Lévy a abusé d'un vieillard. Sur la fin de sa vie, Sartre a recomposé autour de lui une autre famille, avec sa fille adoptive, donc, et son secrétaire. Et il y a sans doute eu des jalousies très fortes entre les deux clans. Toujours est-il que le 15 avril 1980, la petite famille et la nouvelle famille perdent leur figure paternelle.
Le journal Didier Leca.
Bonjour, Jean-Paul Sartre avait 75 ans, il est mort dans le silence hier soir à l'hôpital Brousset, entouré de quelques fidèles. Sartre, le philosophe, l'écrivain, l'intellectuel engagé dans le combat politique et même dans l'action, l'homme de théâtre aussi, Sartre a été l'un des grands témoins de ce temps, l'un des grands penseurs de ce siècle, même s'il a été beaucoup contesté et parfois même haï.
Sartre est mort sans s'être rapproché de Beauvoir.
De ce fait, la mort de Sartre, comment dire cela ?
Daniel Salnave.
J'ai un sentiment peut-être erroné que lorsque les choses sont belles, en parfait équilibre, dans un couple, la mort de l'un des deux, je vais dire peut-être un paradoxe, est moins douloureuse que lorsque la relation n'est plus aussi belle qu'elle était. Parce que la mort, dans le premier cas, c'est une chose totalement extérieure qui n'est voulue par personne et qui n'attend en rien à la profonde union. Alors que dans l'autre cas, la mort vient dire de toute façon cette union était un peu défaite et rien ne permettra jamais de la refaire. Et je pense que Beauvoir a vécu très douloureusement la mort de Sartre à travers cela. Elle a cette phrase admirable, « Sa mort nous sépara, ma mort ne nous rapprochera pas ». C'est une phrase magnifique. Mais j'ai le sentiment que pour Beauvoir, la mort de Sartre, j'ai assisté aux obsèques de Sartre, c'était une cérémonie incroyable dans Paris, c'était le dernier intellectuel pour qui pouvait y avoir un tel déploiement de population, mais était un drame aussi parce que leur union n'était plus, avait été défaite par quelque chose.
14h15, le cortège funèbre de Jean-Paul Sartre quitte l'hôpital Brousset.
19 avril 1980.
Sur le premier fourgon, d'immenses gerbes de fleurs de Libération, Gallimard, Les Temps modernes, Un bateau pour le Vietnam et l'Amicale des Algériens en Europe. Simone de Beauvoir et les intimes de Jean-Paul Sartre ont pris place près du cercueil. Concernant un écrivain, il faut remonter aux obsèques de Victor Hugo en 1885 pour avoir une idée de ce qui s'est passé à Paris cet après-midi. Sans aucun service d'ordre, la foule silencieuse et recueillie s'est emparée de la rue, créant de monstrueux embouteillages. Paris était à Sartre. Plus le cortège progressait dans le 14e arrondissement, plus le monde affluait, les trottoirs se remplissaient, le défilé digérant au passage la masse compacte de nouveaux arrivants et ceux qui avaient donné rendez-vous à Sartre au long de son dernier voyage. 10 000 à Brousset, 50 000 à l'arrivée, au moins. Une majorité de jeunes, mais toutes les générations sartriennes étaient là.
Après les obsèques de Sartre, le soir même, Simone de Beauvoir est admise à l'hôpital Cochin. Épuisée, on lui diagnostique une double pneumonie. La mort de Sartre lui a coupé le souffle. Tout doucement, elle reprend pied et veut renouer avec Sartre au-delà de la mort, grâce à ce qu'elle sait faire de mieux, un livre intitulé « La cérémonie des adieux ».
C'est un livre dans lequel, en effet, même si sa mort nous sépara et la mienne ne nous rapprochera pas, mais ce qui les rapproche, c'est l'ensemble qu'elle va constituer, qui est d'ailleurs publié avec des entretiens qu'elle eut avec lui, qui sont formidables, qui sont épatants. Je peux en citer un qui est très
bien
rigolo.
Sûr.
Elle lui dit « Sartre, à quel âge avez-vous eu un rapport avec une femme pour la première fois ?» Il réfléchit un peu, il dit « Oh, j'avais 18 ans, c'était une amie de ma mère qui en avait 30. » Simone Voir dit « Elle était contente ?» Oui, oui, elle a dit qu'elle était contente. Simone de Beauvoir, et vous l'avez revue après ? Non, jamais. Oh, alors elle ne devait pas être si contente que ça. J'adore ça, parce que c'est... D'abord, ça dit beaucoup de choses sur leur rapport, et puis sur sa vigilance à elle. Et ce côté féminin, attention à ta vantardise d'homme.
Il me faudrait une photographie du couple ambiance Paris existentialiste.
Vous êtes les Abélard et Louis du XXe siècle. Les Pierre et Marie Curie de la littérature. Vous êtes un couple mythique.
Arrêtez la pommade.
Ne partez pas, j'en ai pour une seconde.
Suivez les conseils de ce journaliste, Castor. Souriez la postérité, mon amour.
I've never met you, yet never doubt you. I can't forget you. I've thought you out, dear.
La cérémonie des adieux est publiée en novembre 1981. Il reste à Simone de Beauvoir moins de 5 ans à vivre. Jusqu'à sa mort, sa fille adoptive, Sylvie Le Bon de Beauvoir, occupe une place cruciale en prenant soin de cette femme qui est entrée en vieillesse. À quoi ressemble l'existence sans Jean-Paul Sartre ?
Autant que je puisse le savoir, elle considère que son œuvre est achevée, elle voyage beaucoup. Et ces voyages, qui au départ étaient des voyages en Europe du Nord, aux États-Unis, où elles sont allées chez Kate Millett, etc.
Kate Millett était une écrivaine féministe américaine.
Ce sont des voyages en France. Et là, elle redécouvre cette France qu'elle aimait à bord de sa petite auto en 1952, comme dans une chanson de Charles Trenet. Eh bien, elle la redécouvre, mais maintenant, ce n'est pas elle qui conduit. Elle a besoin de cela. Elle a besoin d'être accompagnée, aidée, entourée. Elle en parle comme d'un bonheur solide, quelque chose d'extrêmement solide qui est en train de se passer pour elle et qui l'a conduit à la maladie et la mort en 86.
Un des grands amours de sa vie, devenu ensuite son complice et confident, accompagne lui aussi Simone de Beauvoir jusqu'à la fin.
Claude Lanzmann dans Le Lièvre de Patagonie. Je me souviens de ce temps qui précéda sa mort en 1986 comme d'une période presque heureuse. Elle faisait encore des projets de voyage dans le Grand Nord et se montrait triste lorsque cela lui était refusé. En 1986, les médecins ordonnèrent qu'elle soit d'urgence transportée à l'hôpital Cochin, dans un service de réanimation où elle demeura jusqu'à la fin.
Elle meurt le 14 avril 86. De quoi décède-t-elle ?
Je ne sais pas. Je pense que son état général n'était pas bon. Je pense qu'elle a commis beaucoup d'excès à plusieurs reprises de sa vie. Sartre aussi. Il ne s'en cachait ni l'un ni l'autre. Et Sartre, ça commence très tôt, parce que dans les années 50, il est en Russie, enfin en URSS. Simonov lui fait boire une coupe remplie à ras-bord d'un vin, je sais pas moi, de Géorgie, j'imagine. Il le boit jusqu'au bout et il tombe raide. Et là, son premier attaque.
Ça suffit, Sartre, vous avez assez bu.
Mais non.
Mais je le dis sérieusement, vous esquintez la santé. Et puis vos amphétamines, vous croquez 5 tubes de corridane par jour.
Vous exagérez, 2.
Non, vos excitants, vos somnifères, vos litres de thé, de café, c'est trop tout ça. Et le whisky, vous en avez bu combien hier soir?
Bah, pas plus que vous.
Sartre, ça ne va pas.
Ça va très bien. Il vaut mieux écrire la critique de la raison dialectique que d'être bien portant. Je le dis sans orgueil. Si je perds 5 années de vie, eh bien tant pis. À l'heure qu'il est, la vie c'est plutôt une punition. Allez, on travaille.
Le dernier hommage rendu à Simone de Beauvoir, 5000 personnes environ assistaient aujourd'hui à ses obsèques à Paris. Beaucoup de femmes venues saluer la mémoire de celles qui avaient si bien défendu leur cause à un moment où ce n'était pas encore une question de mode. Roland Sicard et Dan Loustalo étaient au cimetière du Montparnasse.
19 avril 1986.
5000 personnes, peut-être plus, tous étaient venus pour suivre Simone de Beauvoir de l'hôpital Cochin où elle est morte lundi dernier au cimetière du Montparnasse. Une marche d'une heure et demie à travers les rues de ce quartier où elle avait passé les dernières années de sa vie. Dans le cortège, les proches, Hélène, la sœur de Simone de Beauvoir, des personnalités politiques de gauche, des artistes et des figures du mouvement féministe international comme l'écrivain Kate Millett.
J'ai assisté très près aux obsèques de Simone de Beauvoir et j'ai été très frappée par la présence de ceux qui étaient là à la levée du corps dans l'hôpital où elle est morte et par une espèce d'égarement extraordinaire qui les tenait tous. Parce que je crois que leur monde, ce qu'elle appelait la famille, etc., tenait par sa présence. Et sa mort, être rassemblée autour de ce corps, de ce cercueil, faisait véritablement éclater un monde. Ce monde s'est-il recomposé après? Je ne le crois pas. Je pense qu'il ne s'est pas recomposé et que ce qu'elle avait appelé, Sartre et elle, ce qu'ils appelaient leur famille, en fait, c'était eux qui tenaient cela. C'était eux qui le tenaient. Avec des personnalités fortes, bien sûr, qui en faisaient partie, mais dont le rapport était autour de ce centre qu'elle représentait.
Yvette Roudy, ministre des droits de la femme entre 1981 et 1986, était aux obsèques de Simone de Beauvoir.
Simone de Beauvoir, c'est l'avenir des femmes. Elle nous a fourni la clé, vraiment, de tous les problèmes, des conditions de vie des femmes. Dans son œuvre, auquel on continuera de se référer pendant des années et des années, on trouve là tous les éléments qui nous permettent de comprendre et à partir desquels on peut construire.
Simone de Beauvoir est enterrée dans le caveau de Jean-Paul Sartre, au cimetière du Montparnasse, avec au doigt une bague offerte par son amant américain, Nelson Algren. Il est mort lui aussi, quelques mois après Sartre, en 1981. Cette femme, Beauvoir, qui s'est identifiée aux hommes pour s'émanciper, au moment où elle disparaît, est devenue un modèle d'identification pour les femmes.
Ce n'est pas seulement qu'elle se voit comme un modèle.
Manon Garcia.
C'est qu'elle répond au fait que son lectorat la voit comme un modèle et qu'elle y voit une vraie responsabilité. Et elle a un texte comme ça sur les privilèges qui est méconnu mais qui est très important, où elle essaye de réfléchir à qu'est-ce que c'est que d'agir en privilégié, qu'est-ce que c'est que de prendre en compte le fait qu'on a une vie plus facile que d'autres, où on a accès à plus de choses que d'autres, etc., et à quoi cela nous oblige. Je crois que cette question de l'obligation, c'est quelque chose qui a été vraiment très important pour elle, notamment dans la guerre d'Algérie. Je pense qu'elle s'est vraiment dit qu'elle avait des obligations en tant que femme qui n'avait pas traversé l'enfer que la plupart des femmes traversent, d'être coincées avec les enfants, le mari, le viol régulier du mari, etc. Et qu'elle avait une conscience très très forte de ce à quoi ça l'obligeait de n'avoir pas traversé toutes ces horreurs-là. Et que du coup, elle a vraiment mené sa vie à partir d'un moment avec cette idée de devoir quelque chose aux gens et aux femmes en particulier qui avaient eu moins de chance qu'elle.
consciente de ses privilèges de classe, Beauvoir a cherché à avoir un impact sur la société au travers de ses engagements et de ses écrits. C'est la Seconde Guerre mondiale qui l'a profondément changé. Une épreuve où elle a pris conscience des autres, donnant naissance, entre autres, au deuxième sexe. Elle devient alors une source d'inspiration pour les jeunes femmes. Et l'historienne Michel Perrault, née en 1928, s'en souvient très bien.
Je dirais que, à la Sorbonne, des années où j'étais, les années 47-50, Sartre et Simone de Beauvoir, l'existentialisme, oui, c'était extrêmement important. Quand je suis sortie de mon cours Bossuet, qui était un cours de religieuse, faut pas l'oublier, on nous avait mis en garde contre l'existentialisme. Il y avait notamment un prêtre de l'Institut catholique qui était venu pour nous faire une conférence sur l'existentialisme, pour nous dire que l'existentialisme n'était pas un humanisme. C'était même le titre, je crois, de sa conférence. Et nous dire que nous allions sans doute rencontrer ces idées-là, et qu'il fallait nous en méfier beaucoup, que c'était des idées athées, des idées où on substituait l'existence de l'homme à Dieu. Donc, vous voyez, il y avait, au moins dans certains milieux, une condamnation de l'existentialisme. Et bien entendu, une condamnation des femmes dans l'existentialisme. Le fait que Simone de Beauvoir, c'était ce qu'il ne fallait pas faire. Justement, c'était le mauvais chemin pour les femmes. C'était justement ce que nous, jeunes chrétiennes, qui allions peut-être nous émanciper, on voulait être des intellectuels. Mais attention, attention, il y avait un modèle d'intellectuel chrétienne qu'on pouvait développer. C'était des choses qui se débattaient beaucoup, beaucoup. Hein. Et quand le deuxième sexe paraît, ben oui, je suis tout à fait conquise, une fois de plus, par Simone de Beauvoir.
En conclusion de ce septième épisode, ayez en tête que la vieillesse et la fin de vie furent une source de réflexion chez Beauvoir, une analyse qui résonne en chacun de nous. Il faut lire ou relire la vieillesse pour se soucier de la place et de la dignité qu'on doit offrir aux anciens dans les sociétés occidentales. Enfin, il est intéressant de jeter une oreille à l'ultime interview donnée par Simone de Beauvoir. C'était au micro de Radio-Canada au printemps 1984.
Eh bien, je crois que le féminisme n'est pas mort du tout, qu'il n'a plus du tout la couleur agressive qu'il avait auparavant, en tout cas en France. Parce que justement, en France, nous avons maintenant un gouvernement qui est pour les femmes, en grande partie, puisqu'on a créé un ministère des droits de la femme, dont le ministre, Yvette Roudy, est extrêmement féministe et fait des tas de lois en faveur des femmes.
Comment les combats de Simone de Beauvoir ont nourri les mouvements féministes après sa mort, c'est l'horizon du dernier épisode.
Je pense que le mouvement féministe est moins éclatant maintenant, mais qu'il gagne plus en profondeur qu'il ne faisait avant. Je pense justement à des revues féminines tout à fait moches du point de vue féministe comme elle. Eh bien, malgré tout, les conseils du cœur que donne une Ségal ne sont pas du tout les mêmes qu'elle aurait donné avant. Avant, elle aurait absolument trouvé scandaleux qu'une femme ait un amant. Maintenant, elle lui conseille la tactique qu'il faut avoir entre le mari et l'amant. Elle conseille la contraception. À la limite, même, elle conseillerait l'avortement. Donc, il y a un gros changement dans les mentalités. C'est-à-dire que des femmes non féministes sont plus féministes qu'elles ne croient maintenant. C'est-à-dire que ça les a gagnées. Elles ont plus un sens de leur dignité aussi, et de leurs droits, et de la lutte à mener qu'elles ne l'avaient il y a 20 ans. Ça, c'est certain.
Simone de Beauvoir, un voyage en bourgeoisie. Un récit de Philippe Collin, réalisé par Juliette Medevielle. Lecture, Julie Sicard de la Comédie-Française et Bérangère Varluzel. Assistance éditoriale, Irène Menahem, Frédéric Martin et Aurore Juvenel. Chronologie des faits, Sylvie Lebon de Beauvoir, aux éditions Gallimard. Mixage, Basile Bocquer et Benjamin Orgeret. Prochain épisode, l'héritage du castor. Simone de Beauvoir, un voyage en bourgeoisie, est un podcast original de France Inter.